Bien, bonjour à toutes et à tous. Avec mes excuses pour ce retard lié au beau temps. Il y a beaucoup de monde dehors à Bordeaux là, en ce moment. Donc vous êtes très méritant aussi d'être là avec le soleil qui fait.
Faut parler devant parce que censé n'entendre pas.
La problématique du risque à l'adolescence est une problématique à la fois tout à fait commune, tout à fait banale et en même temps tout à fait fondamentale. Il nous a paru au Collège international de l'adolescence, lorsque nous avons décidé d'organiser un colloque sur ce thème l'année passée, il nous a paru important de souligner combien les conduites à risque que l'on observe de différentes façons au moment de l'adolescence peuvent s'entendre à la fois comme une des modalités pathologiques parfois de vivre cette expérience adolescente qui bouleverse l'équilibre de l'enfant qui devient pubère, et à la fois combien cette aventure du risque constitue une expérience tout à fait ordinaire qui correspond parfaitement à ce qui est d'une certaine façon vital pour l'adolescence, à savoir, et les adolescents, explorer les limites du monde interne, explorer les limites aussi du corps physique, du corps biologique, mais aussi du corps pubère, du corps fantasmatique, du corps érotique, explorer les limites de la relation de soi à l'autre, les limites de la vie et de la mort, autant d'expériences cruciales qui participent pleinement à ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui, d'une façon peut-être un peu trop généraliste, un processus de subjectivation. C'est-à-dire comment on devient sujet, bien on devient sujet de désir, dans la rencontre avec l'autre, bien sûr, mais aussi dans la rencontre avec les limites, et cette exploration des limites constitue donc un des axes fondamentaux dans l'expérience adolescente. Plutôt que de s'en tenir uniquement, justement, au versant des conduites dites à risque, qui pour nous apparaissent à la fois comme une évidence clinique, parce que c'est vrai que beaucoup d'adolescents conduisent vite, cherchent dans l'extrême, que ce soit au niveau des activités sportives, que ce soit au niveau de la consommation de produits, y compris de produits toxiques. On voit bien qu'il y a là, en effet, une pente, une tendance dans ces conduites. Mais plutôt que de se cantonner à cet aspect donc, qui peut apparaître par certains égards assez pathologique, il nous a semblé que le risque lui-même était vraiment chevillé à la vie elle-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans prendre de risques. Et ceux et celles qui ne prennent aucun risque, eh bien, en général, ont beaucoup de mal par la suite pour pouvoir vivre, tout simplement, parce que il est clair que la vie comporte une part de risque tout à fait essentielle, tout à fait importante. Alors, je ne vais pas présenter l'ensemble de l'ouvrage qu'évidemment nous vous invitons à lire et à acheter, hein, « Adolescence et prise de risque », qui est un ouvrage donc, qui a été co-dirigé par Annie Biraud et Didier Lorue, qui ont été aussi les coordinateurs du colloque, dont est issu l'ouvrage. L'ouvrage déborde aussi largement le colloque qui a eu lieu. On commence par parler un peu de mon chapitre
Oui, bien sûr. Ouais.
J'ai pris le problème par un bout particulier, un bout un peu original, enfin, pas forcément très habituel, qui est comment est-ce qu'on peut comprendre que des adolescents prennent donc un certain nombre de risques et que, pour l'essentiel, la plupart s'en sortent bien. Voilà. Et puis, comment peut-on comprendre des prises de risques qui conduisent à des situations plus dramatiques, à des accidents à répétition, enfin, ce qu'on peut souligner comme presque un besoin de se heurter à la dureté d'une réalité externe, ce que nous appelons la traumatophilie, c'est-à-dire une tendance pathologique à chercher dans l'expérience traumatique le sentiment de se sentir vivant. Donc comment prendre ces questions-là, comment tenter d'y répondre? Et il m'a semblé qu'une des figures paradigmatiques du risque et du risque adolescent ou à l'adolescence, l'idée n'est pas très originale puisqu'il s'est trouvé que Paola Carbone, qui est une de nos collègues et amies d'Italie, s'était avancée un petit peu sur la même pente de cet exemple paradigmatique. C'est l'exemple d'Icare, c'est-à-dire ce personnage mythologique qui, à l'aide de son père, défie les lois de la nature et prend des risques importants, tellement importants que ça lui coûte la vie. Bien, en regardant de près cette histoire d'Icare, ou en tout cas en la regardant d'une certaine façon, sous un certain angle, il m'est apparu que le père d'Icare, Dédalus, qui a donné son nom au Dédale, architecte du roi Minos, Dédale n'était peut-être pas pour rien dans cette expérience dramatique de son fils. Peut-être que, au mieux, a-t-il mal mesuré les risques qu'il a fait prendre à son fils pour s'évader d'un lieu où il était enfermé avec lui, le père et le fils, parce que le père, c'est un sacré coco qui avait eu pas mal de démêlés avec la justice. Et donc, sortir de cet enfermement pour des raisons qui sont liées à l'histoire du père, entraînant son fils dans sa chute, on pourrait dire aussi, sa chute morale en tout cas, voilà déjà une première piste. Une première piste, c'est-à-dire que peut-être que du côté de la famille, du côté de la parenté d'Icare, du côté paternel en tout cas, sûrement, la prise de risque du fils était peu contrôlée, peu encadrée par le père. En regardant de près, en effet, on voit que, bien sûr, le fils a outrepassé les conseils du père. Il ne les a pas respectés. Le père lui avait dit, fais gaffe. Tu sais, ça tient, mais pas trop, quoi. La cire qui tient les ailes, si tu t'approches du soleil, ça peut fondre, puis plaf, tu tombes. Bien sûr qu'Icare n'a pas tenu compte de ce conseil. Mais quelle idée, quand même, d'engager son fils dans une telle aventure, avec un dispositif aussi fragile. Et ça nous fait penser à des situations bêtes de la vie quotidienne, de la vie courante, des faits divers même, je dirais, où on voit comme ça des enfants et des adolescents jouer avec des armes à feu, un coup qui part accidentellement. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces armes à feu? Quelle est cette idée du côté de l'entourage, pas forcément uniquement parental, mais de l'entourage? Que font les adultes dans ces situations où ils mettent les adolescents dans un contexte de grande dangerosité pour eux-mêmes et puis pour les autres? Mais sans aller chercher si loin, qu'est-ce que c'est cette idée d'offrir à son fils une moto, une grosse cylindrée moto? Aujourd'hui, on sait quand même le nombre d'accidents qu'il y a de ce côté-là. Donc, peut-être que la moto, c'est agréable. Moi, je suis un ancien motard, je sais ce que c'est. Mais il faut beaucoup de patience, beaucoup de contrôle sur soi, hein, pour pouvoir profiter pleinement de cette activité. Et donc là, on voit non pas la perversité de parents qui pousseraient au crime leurs enfants, non, mais plutôt la difficulté que rencontre cet environnement à la fois permettre à ces adolescents de vivre une certaine expérience du risque, de vivre la possibilité de toucher, de tâtonner, de toucher la limite en tout cas, et peut-être même de faire des expériences de transgression. mais encadré. Encadré. C'est-à-dire en ayant mesuré les risques de cette invitation ou les risques de cette ère de jeu dans laquelle l'adolescent s'engage. Et si c'est une expérience de jeu, eh bien là, on est déjà dans un autre registre que ces autres expériences qui sont aventureuses et qui peuvent risquer de mettre en jeu la vie de l'adolescent. En tout cas, de la mettre en jeu d'une façon qui ne permet pas de bénéficier de la prise de risque. Parce que l'expérience de prise de risque est positive, mais prendre un risque inconsidéré l'est beaucoup moins. Alors, bien sûr que ma perspective pêche par des tas d'aspects, si je puis dire, dans la mesure où il y a aussi des adolescents qui ont des conduites suicidaires, on pourrait dire, des conduites qui les attirent du côté du côtoiement de la mort, qui les attirent du côté de l'expérience de la destructivité, et que ça n'est pas le fait simplement d'un environnement défaillant. Il y a aussi toute une dimension pulsionnelle, toute une activité interne qui pousse vers ce côté destructeur. Mais dans tous les cas, ce que j'ai voulu mettre en évidence ou profiter de l'occasion, disons, c'est l'importance de ce que nous appelons le soutien narcissique parental, c'est-à-dire cette position particulière que doivent occuper les adultes vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des adolescents, qui à la fois leur garantissent la possibilité de vivre ces expériences et en même temps qui leur garantissent la sécurité. La sécurité de base, la sécurité affective, la sécurité relationnelle, la sécurité tout court. Parce que soutenir narcissiquement un adolescent, c'est à la fois lui offrir cette possibilité de vivre, mais c'est aussi lui donner un certain cadre, des limites, contre lesquelles cet adolescent va venir buter, il va venir les contester, ces limites. Mais il faut qu'il y ait des limites pour qu'elles puissent être contestées. Et souvent, moi, quand je reçois des adolescents avec leur famille, quand on va voir un psy, en général, c'est qu'il y a des soucis dans la famille. Moi, je dis à l'adolescent, ton boulot, c'est de contester les limites. C'est de les repousser le plus loin possible. Mais je dis aux parents, votre boulot, c'est de tenir bon. Et c'est dans cette confrontation entre la poussée interne qui veut que le champ de conscience, le champ d'expérience s'ouvre, s'élargisse, mais que aussi, par ailleurs, du côté parental, du côté des adultes, ça tienne bon, c'est-à-dire qu'il y a un cadre qui soit offert, qui permette de vivre à l'intérieur de ce cadre cette expérience de prise de risque. Donc voilà, c'était un petit peu autour de cette idée un peu simpliste que j'avais essayé de discuter le mythe d'Icare vu sous cet angle-là.
Merci pour ce brillant exposé qui, effectivement, rend compte d'un des aspects du problème posé par la prise de risque qui a été traité dans ce bouquin et dans ce colloque, dont je trouve que quand tu dis qu'il il dépasse le contenu de ce que nous avons traité lors de la tenue de cette journée, tu es un petit peu en deçà de la réalité parce que finalement, il y a un certain nombre de communications qui n'ont pas été reprises, qui ont été des communications orales et qui nourrissaient d'une façon tout à fait intéressante le thème. En particulier la communication de Patrice Peloux sur les urgences. Dont on a pu retenir, entre autres, bien qu'il nous ait fait part beaucoup de sa clinique et des relations aux jeunes patients dans un service d'urgence, mais aussi à leurs parents, que finalement, le problème de la prise de risque était bien plus important dans les milieux sportifs que dans les milieux, j'allais dire, du tout-venant, en fait, de l'adolescent tout-venant. Et que c'était un vrai problème dans la mesure où on pouvait considérer que ces milieux sportifs étaient plutôt protecteurs à l'égard de leurs jeunes athlètes. Bon, ça, c'est une... Enfin, c'est pas... sa communication ne se réduisait pas à ça, mais c'est un élément que j'ai retenu parce que... dont je fais part, parce que je trouve que c'est tout à fait intéressant de voir comment, institutionnellement, la prise de risque peut être encouragée par un certain nombre de structures sociales qui, au fond, portent les adolescents à jouer la compétitivité, à jouer l'héroïsme, à jouer les héros. Au fond, c'est un peu le mythe d'Icare, mais porté là non pas par la dimension familiale, mais porté par la dimension sociale. La deuxième chose que je voulais dire, alors bon, sur les généralités, sur l'idée que la notion de risque, c'est l'aléatoire, c'est etc., c'est le hasard, c'est sur le plan statistique, sur le plan personnel, ça ne peut être pensé que dans une dimension historique. Quoi. La prise de risque, c'est pas le fait de l'autre, c'est un moment de l'histoire du sujet et même si c'est à son insu, c'est un moment historique. Mais au fond, ce que nous déclinons nous comme prise de risque pourrait très bien se penser dans l'espace de ce qu'on investit quand on parle de violence. La différence, c'est que ça n'est pas la violence faite à l'autre, c'est la violence retournée contre soi et à l'insu du sujet, la prise de risque. C'est vrai que le père d'Icare n'était pas là, mais c'est vrai qu'Icare, il s'est embarqué comme ça dans une aventure dont il devait quand même savoir peu ou prou que ça pourrait ne pas très bien tourner, quoi. Et je trouve que il faut avoir ça à l'esprit parce que les adolescents à risque sont des adolescents qui ont probablement un rapport à l'idée de mort très particulier, encore une fois inconscient rapport à leur insu, mais en tout cas qui n'ont pas la conviction que la vie, le rapport à la vie engage un certain nombre de mesures protectrices de soi-même pour soi-même. On a l'impression que beaucoup de ces adolescents sont des adolescents qui, au fond, méprisent leur corps. Quelquefois dans une fuite comme ça vers l'idéalité, vers les modèles idéalisés ou grandioses où l'esprit, la toute-puissance de l'enfance, etc., font barre sur ce qui est de l'émergence du matériel et du concret. Mais au fond, souvent, ces adolescents sont des adolescents dont le corps n'a pas fait l'objet de soins maternels et qui ne savent pas comment prendre soin de leur corps. Quand je vois, enfin, je voudrais pas catégoriser cette notion de risque à ces seuls adolescents, mais quand je vois des adolescentes trouées, percées partout, avec des attirails de ferraille dans le nez, les oreilles, je me dis, mais quels soins ont-elles eu quand elles étaient bébés? Dans les bras de leur mère, quel rapport au fond au corps maternel ont-elles eu pour qu'elles puissent comme ça se faire souffrir autant avec l'idée d'être reconnues quand même, parce que c'est ce qui meut au fond ces pratiques adolescentes. Alors donc la prise de risque, l'affaire peut-être banale de l'adolescent entre enfance et âge adulte. Prise de risque qui est au fond la caractéristique du temps pubertaire et de la réactivation archaïque de ce temps pubertaire, mais prise de risque qui est aussi probablement un temps où le rapport du sujet à la violence et à la violence pulsionnelle se retourne contre soi inconsciemment, au lieu de s'adresser à l'autre, et à l'autre, à l'autre intériorisé, sans doute. Alors, ma contribution, moi, à ce bouquin, Ma contribution est très, très modeste. Elle visait à essayer de montrer, et d'une façon assez simple, que la prise de risque pouvait être... Ce n'est pas du tout ce rapport à la violence que j'ai traité. J'ai traité du fait que la prise de risque pouvait être, au fond, un avatar du travail d'adolescence. C'est-à-dire qu'au lieu de revisiter les enjeux qu'engage la castration génitale, au lieu de vivre toute cette souffrance du travail d'adolescence, le jeune va se fixer lui-même ses limites, va se dessiner le scénario qu'il devrait vivre pour accéder à un statut adulte. Alors c'est une affaire imaginaire qui, dans l'imaginaire aussi, lui permet de penser qu'il ne souffrira pas de ce qu'il appréhende de ce temps d'adolescence et qu'il va mettre en jeu comme ça dans des situations donc dangereuses, souvent mortelles. Et au fond, je pense que... Alors David Le Breton le dit d'une autre manière, il dit qu'au fond, la prise de risque est une auto-symbolisation. Alors je pense pas ça parce que c'est pas de l'auto-érotique. C'est de l'auto en ce sens que c'est imaginaire et que donc c'est chaque adolescent dessine le scénario de cette prestation, mais en même temps c'est pensé dans un universel qui est l'accès à la symbolisation. Et cet accès à la symbolisation, au fond, les mythes nous le racontent, les ethnologues aussi, en particulier dans tout le travail de ritualisation qui est mis en évidence dans un certain nombre de sociétés que l'on dit archaïques ou anciennes, mais où finalement le rituel va permettre en trois temps bien encadré, j'allais dire, de permettre le passage du statut en fait, de l'enfance à l'âge adulte. Alors, dans ces trois temps, enfin, il y a le premier temps qui est la séparation, vous avez lu sûrement ces récits de rites initiatiques, mais je le reprends rapidement parce que je crois que c'est important dans la description du risque. Le premier temps, c'est la séparation du groupe social. L'adolescent est écarté de son village et emmené, alors bon, il y a des scénarios divers, mais emmené loin du groupe social et en particulier séparé de sa mère. Donc le premier temps, c'est le temps de la séparation. Le deuxième temps, c'est le temps du vécu, de l'éprouver, de l'angoisse. C'est de l'angoisse de la souffrance, de la séparation, de la solitude, c'est-à-dire de cette confrontation avec le risque de mort, avec le risque de souffrance, etc. Et le troisième temps, c'est le temps auquel on accède quand ces deux premiers temps ont été dépassés, c'est la révélation de la sexualité, parce que ces rites initiatiques, en tout cas pour les garçons, sont très typiquement organisés autour de ces trois phases. Pour les filles, c'est un peu différent, parce que dans ces sociétés primitives, la femme était, au fond, la fille était la répétitrice au fond d'une structure maternelle entretenant les mythes, le feu, l'âtre, etc. Et que il y a quelques textes décrivant les rituels féminins, mais ces rituels féminins sont finalement dans la répétition du même, sans le parfum qu'il y a dans les rites masculins, qui montrent quand même une plus grande liberté et en même temps une plus grande liberté, enfin je ne devrais pas employer ce mot-là, une plus grande diversité des modalités d'accession à ce symbolique en fait qui fait l'âge adulte au fond. Et alors que dans les rituels féminins, on a des rituels qui ne sont pas collectifs, d'ailleurs, en général, qui sont individuels. C'est un peu comme si la femme se donnait le temps d'initier sa fille à ce qu'elle estime être la tradition pour elle et pour ce que... Mais il n'y a pas je n'ai pas relevé dans ce que j'ai pu travailler de dimension collective à ces rituels féminins. Hein. C'est pour ça que je parle surtout des rituels masculins. Alors, je suis revenue à ces rituels-là parce que je pense qu'effectivement, ils permettaient dans les sociétés premières ce passage en douceur de l'enfance à l'âge adulte. Ce qui permet d'ailleurs à certains ethnologues ou anthropologues, comme c'est Margaret Mead qui le dit dans Le fossé des générations, qui dit « il n'y a pas d'adolescence dans les sociétés primitives ». Effectivement, il n'y a pas d'adolescence. Il y a un temps qui est le temps d'initiation entre l'enfance et l'âge adulte, et c'est tellement linéaire que les adolescents... ne sème pas le bordel dans l'organisation de cette société-là. Il n'y a rien à craindre. Ça marche comme ça très bien. Mais néanmoins, le travail d'adolescence, le travail de conquête de la génitalité, le travail de subjectivation se fait à travers le vécu de ces rituels d'initiation. Alors, je ne vais pas déplorer leur disparition, mais ce qu'il faut que nous nous demandions, c'est comment... nos enfants vivent-ils maintenant ce travail de puberté, ce travail d'adolescence? Quels sont, au fond, les événements ritualisants qui leur permettent, sans trop de souffrance, un accès au symbolique? Parce que c'est quand même dans l'idée de ce sans trop de souffrance que se joue, à mon sens, la prise de risque. La prise de risque est pour beaucoup d'adolescents quelque chose de moins douloureux que de se soumettre à ce qu'ils imaginent être, au fond, le travail qui leur permettra d'être reconnus comme des adultes, c'est-à-dire de ne plus être les enfants de leur père, mais d'être reconnus comme de futurs pères eux aussi. Il y a des articles dans ce bouquin, je ne mentionnerai pas tout leur contenu, mais ce qui est intéressant, c'est la clinique, l'article de Paola Carbone que François a mentionné et qui est tout à fait intéressant parce que, j'allais dire parce qu'il rejoint nos préoccupations, c'est pas seulement pour ça, mais parce que Paola Carbone est une femme, une psychanalyste qui travaille dans les services d'urgence des hôpitaux romains, enfin de l'hôpital de la Sapienza, depuis des années, et qui a beaucoup, beaucoup observé, soigné ce qui se passe du côté des adolescents qui reviennent aux urgences avec un bras, une jambe cassée ou tout simplement sur un brancard avant de passer à la morgue. Et ce qu'elle peut dire, au fond, de ce qui sous-tend la répétition des prises de risque, même minimes, est tout à fait intéressant du côté de, au fond, la dépressivité des adolescents, de l'impossibilité dans laquelle ils sont de mettre des mots sur ce qu'ils vivent, sur leur affect douloureux et quelquefois sur leur souffrance infantile qu'ils ont essayé de colmater. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés.